9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Un invité exceptionnel ce matin, c'est Christophe Guilluy, l'auteur de La France périphérique, qui publie un nouvel essai, Les Dépossédés. On ne vous a entendu qu'ici, hein, Christophe Guilluy. Faites-moi entendre le son de votre voix.
Que... Oui, oui, alors je suis vraiment là. mais non, c'est vrai que je ne cours pas après les médias.
Je recevrai ensuite Jacques Tardy, l'un des plus grands auteurs de la bande dessinée vivant. Lui aussi, on entend rarement le son de sa voix. Il vient pourtant de publier le 10e et dernier album Des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec.
Europe 1.
Christophe Guilluy, vous êtes donc géographe, vous êtes l'auteur de La France périphérique, qui est probablement le livre le plus cité de ces 10 dernières années. Aujourd'hui, vous publiez un nouvel essai sur les classes populaires, Les Dépossédés, qui paraît chez Flammarion. Pourquoi Les Dépossédés? De quoi a-t-on dépossédé les classes populaires qui, par définition, ne possèdent pas grand-chose?
Ce que je fais, et d'ailleurs ce qui est d'ailleurs peu compris par mes collègues, c'est finalement de creuser un sillon qui n'est pas, quelque chose que je recherche, mais qui m'a été pratiquement imposé, quoi. C'est-à-dire que depuis, on va dire, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas depuis, allez, on va dire, une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc vous voyez, je m'inscris quand même dans un processus de temps long qui permet d'expliquer, quoi, tout ce que finalement les démocraties occidentales ont vu émerger ces 20 dernières années, une contestation bizarre, une contestation qui ne ressemble absolument pas aux mouvements sociaux du 19e siècle, du 20e siècle. On aimerait bien, d'ailleurs, ce serait plus simple, quoi. Lutte des classes, la classe ouvrière, Jean Gabin sur sa locomotive. Et puis, voilà, ces gens nous demandent des meilleurs salaires, on va leur donner ou pas. Et finalement, ils sont là pour demander des nouveaux droits. Et on voit bien qu'en fait, ça déborde de la question sociale. D'où d'ailleurs la tempête sous un crâne de nos intellectuels spécialistes et experts. Mais est-ce un mouvement social? Est-ce un mouvement identitaire, existentiel, etc.?
Oui, parce que, interrompre, Christophe Guilluy, mais pour vous, ça se passe aux États-Unis au même moment, avec le vote Trump, ça se passe au Royaume-Uni, avec entre autres le Brexit, ça se passe un peu partout dans les démocraties occidentales.
Et alors, ce qui est frappant, puisque le concept de France périphérique, il a quasiment aujourd'hui 20 ans, donc voilà, je me souhaite moi-même un bon anniversaire. Et en fait, c'était l'idée d'essayer de comprendre ce qui se passait à partir de la géographie, puisque je suis géographe. Ce qui est vraiment frappant dans toutes les contestations, alors peu importe leur forme d'ailleurs, qu'elles soient d'ordre populiste ou alors dans le cadre d'un référendum, le Brexit, que les gens enfilent un gilet jaune, prennent un camion, comme ça s'est passé au Canada, dans le Canada périphérique. Bref, les gens, en fait, sont dans une contestation, j'allais dire, multiforme, dont les ressorts sont effectivement des ressorts sociaux, mais aussi des ressorts existentiels. Et ce qui est vraiment frappant, c'est quels que soient les pays, et pays occidentaux, je vais dire pourquoi occidentaux, parce que c'est quand même un point important, tous ces gens, en fait, on entame une grande contestation. Et partout, dans chaque pays, Europe de l'Ouest et États-Unis notamment, on a exactement la même sociologie, des petits gens, on va dire, des ouvriers, des employés. Ça peut être aussi des petits indépendants. Bref, et quand on met bout à bout toutes ces petites catégories, ça fait un truc qui s'appelait la classe moyenne occidentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que la contestation, elle vient des périphéries, toujours.
Oui, et vous dites même que c'est la seule qui soit véritablement sérieuse. Parce
bien sûr.
En fait, la contestation ne vient pas des grandes villes, elle ne vient pas non plus des banlieues, comme on aurait pu le penser, elle vient toujours de la périphérie.
Ah c'est-à-dire que moi, depuis 30 ans, on nous explique qu'il va y avoir un énorme mouvement social qui va émerger de la banlieue. C'est comme dans le désert des Tartares, on regarde ça, mais il n'y a rien qui vient. Il y a des émeutes, il y a de la violence, etc. Mais il n'y a rien de structuré, en réalité. Il n'y a rien qui fait, j'allais dire, peur au système, au modèle. En revanche, ce qui se passe de l'autre côté des métropoles, alors dans ce que j'ai appelé la France périphérique, puis qui peut être l'Amérique périphérique, la Grande-Bretagne périphérique, l'Angleterre périphérique, il suffit de se balader un peu dans le Yorkshire pour comprendre que les ressorts ressemblent beaucoup à ce qu'on observe ici en France. Et dans tous ces territoires, vous avez une contestation qui a émergé de ces catégories qui formaient hier le socle de la classe moyenne occidentale. Et cette classe moyenne occidentale, elle avait quelque chose de très particulier, c'est que elle bénéficiait d'un modèle économique, d'ailleurs pensé par l'hyper-élite. Hein, en France, on avait le gaulo-communisme, d'ailleurs. C'est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on fait de ces contestataires des anti-élites, ce qui est absolument stupide. Elles sont contre les élites d'aujourd'hui, elles ne sont pas anti-élites. Mais ça permet évidemment, derrière tout ça, de les stigmatiser et d'expliquer que ces gens, évidemment, ne sont pas intelligents. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est de voir que partout dans ces territoires, petites villes, villes moyennes, zones rurales, on a des gens qui étaient hier intégrés économiquement. C'était ça la classe moyenne occidentale, hein. Des ouvriers, des employés, des gens très différents, qui pouvaient être du public ou du privé d'ailleurs, mais qui avaient le sentiment de faire partie d'un tout, d'un modèle économique, c'était ça les Trente Glorieuses, dont on bénéficie. Du coup, elles étaient aussi très représentées politiquement. Bon, en France, beaucoup le Parti communiste, mais ça pouvait être le RPR à un moment donné. Enfin bref, de gauche à droite, on avait des partis qui s'adressaient à ces catégories-là. Et aussi, culturellement. C'est-à-dire qu'on voyait bien le cinéma, les figures, ou la littérature. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on parle beaucoup du cinéma français, les gens ne vont plus dans les salles. Le cinéma français, aujourd'hui, c'est quand même le cinéma, on va dire... en étant gentil, de la bobocratie parisienne, quoi. Je veux dire, donc
mais
oui,
il y a plus
non,
de figures.
Mais non, c'est-à-dire culturellement, toutes ces figures-là ont été effacées. Et on voit bien un bloc majoritaire, et c'était ça la spécificité de l'Occident par rapport aux autres parties du monde, et c'était ça d'ailleurs la source de sa domination, c'est qu'elle avait réussi à bâtir un modèle qui bénéficiait au plus grand nombre. Et le plus grand nombre, ça ne voulait pas dire des gens qui avaient tous le même salaire, etc. Là-dedans, il y avait des inégalités, etc. etc. Mais on était dans un cercle vertueux. Et dans les années 80, j'allais dire les élites, enfin les gens qui pensent la société, on se sont dit, bah finalement, la mondialisation, ça va être intéressant. On va pouvoir faire travailler les Chinois et les Indiens. Alors à la place de la classe ouvrière, mais ça c'est pas très grave, finalement on laisse tomber la classe ouvrière, les gens éventuellement se reformeront, etc. On avait eu ce discours d'ailleurs après la fermeture des Moulinex, je sais pas si vous vous souvenez, qui n'ont évidemment jamais retrouvé du travail. Mais on s'était dit, bon, c'est la classe ouvrière, c'est pas très très grave, passons à autre chose, on a devant nous la grande société tertiaire où on va tous être cadre supérieur et travailler, je sais pas, dans les médias ou la publicité. Et puis, bah, on va vivre très bien, puisque de toute façon, les Chinois ne fabriqueront que des jouets, hein, et des produits manufacturés avec peu de valeur ajoutée. Sauf que les Chinois, bah, maintenant, fabriquent des fusées. Bref, on voit bien que la technologie fiche le camp aussi. Et peu à peu, on a des catégories qui n'étaient plus des catégories ouvrières, donc c'était plus la question de la classe ouvrière ni de la désindustrialisation. Mais des petites gens, des employés, des indépendants qui, peu à peu, ne sont pas devenus pauvres, hein, je ne parle pas de ça, mais se sont fragilisés socialement. Et symboliquement, et c'est à ça que sert la géographie, on se rend compte d'une chose, c'est que ces 30 dernières années, nous avons eu une hyper-concentration de la création d'emplois dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et donc, il y a bien une organisation sociale, territoriale, j'allais presque dire philosophique et culturelle, qui tournent autour de ces gros machins métropolitains dans lesquels vivent alors les catégories supérieures, les journalistes, les prescripteurs d'opinion, le monde du cinéma, j'en passe et des meilleurs. Bref, la production de la représentation de la société, et j'y inclus aussi les universitaires, se fait là. Et ça, c'était la main invisible du marché. C'est pour ça que c'est génial, c'est qu'il n'y a pas de complot. Il y a des types qui ne sont pas réunis autour d'une table, chassons les plus modestes et puis gavons-nous. Non, non, on a laissé filer le marché de l'immobilier. Et effectivement, à 10 000 euros le mètre carré, on peut difficilement accéder à Paris, qui se targue d'être évidemment une ville ouverte.
On fait une pause, Christophe Guilluy. On se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Ce que vous racontez, Christophe Guilluy, dans Les Dépossédés, c'est qu'au fond, on a dépossédé ces classes populaires, la France périphérique, comme vous l'appelez. On les a dépossédés à la fois de leur horizon et de leur représentation. L'horizon, c'est symbolique, mais c'est assez juste quand vous le racontez. Au fond, l'accès à la mer a été ouvert symboliquement par le Front populaire en 1936. Tout à coup, les ouvriers sont allés à la mer. Vous dites qu'il y en a eu très peu à l'époque,
oui, en fait,
qui sont
oui.
allés à la mer. Mais bon, c'est symboliquement, c'était important. important et qu'aujourd'hui, au fond, il y a une gentrification en France du bord de mer, du littoral, qui fait que aussi bien les campings sont chassés que les pêcheurs vendent leur maison à des Parisiens, etc. etc. Et à la fin, ben là, il y a une véritable dépossession pour vous.
Bien sûr, la dépossession, dire les dépossédés, c'était pour moi trouver le concept qui permet de comprendre toute la radicalisation, la contestation qui monte dans l'ensemble du monde occidental. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de pauvres, on n'a pas tout perdu, c'est pas ça. Mais on a bien quelque chose qui est de l'ordre de la perte de ce qu'on est et de ce qu'on a acquis. Et c'est pour ça que je dis la dépossession, elle est multiforme. C'est une dépossession d'abord des lieux. Alors ça, j'allais dire que je l'ai vu tout de suite parce que c'est le biais, j'allais dire, géographique et territorial. Moi, dans les années 90, je travaillais sur la question de la gentrification des grandes villes et notamment de Paris. Et d'ailleurs, c'est très drôle, c'est qu'à l'époque, les spécialistes nous expliquaient que s'il y a gentrification, elle s'arrêtera au périphérique, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Aujourd'hui, pour prendre par exemple la région parisienne, les catégories modestes populaires fondent comme neige au soleil, y compris en Seine-et-Marne et dans le Val-d'Oise. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un rouleau compresseur qui est lancé, dont a priori personne n'est responsable, donc tout va très bien, et qui ne s'arrêtera pas. Et cette dépossession des lieux, donc dans les années 90, 2000, dans l'ensemble des quartiers populaires des grandes villes, c'est vrai en France, c'est vrai évidemment en Grande-Bretagne. Hein, quand on voit ce qui est devenu le Grand Londres, c'est presque affligeant. Tout ça s'est fait finalement dans la joie et la bonne humeur. Hein. On nous expliquait, je me rappelle à l'époque, que un gentrificateur, c'est comme ça qu'on les appelait, c'était quelqu'un qui allait pouvoir amener finalement un peu de civilité, de savoir-vivre dans des quartiers populaires un peu crasseux. Et donc d'ailleurs, avec un discours très écologiste, on a amélioré ces quartiers, évidemment. Mais en les améliorant, bien évidemment, on augmente tranquillement le prix du mètre carré. Et peu à peu, on a évincé ces catégories modestes des quartiers populaires qui n'ont plus de populaire que le mot, évidemment. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Alors pour d'autres questions, aux États-Unis, notamment sur la question des minorités, on ne parle jamais de l'appropriation culturelle, de la culture populaire par les cadres supérieurs, notamment les bobos des villes, qui aujourd'hui vont prendre vont au restaurant, dans un des restaurants qui vont s'appeler, je ne sais pas, la manufacture, je pense au café charbon. Je fais de la pub, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est quand on regarde les noms de ces lieux avant la gentrification, ça s'appelait le bar du des amis, mais c'est devenu le café charbon, etc., etc.
Oui, les ateliers qui sont devenus des lofts,
oui,
les
usines. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est très frappant, et on pourrait même parler des stades de foot qui sont situés dans ces grandes métropoles, qui sont devenus les bateaux amiraux du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des salaires des joueurs, mais on oublie toujours de dire que les catégories populaires ont été absolument chassées des grands stades de football de l'ensemble des métropoles européennes, et notamment anglaises. Ça a commencé là. Et c'est d'ailleurs comme ça que les Anglais ont résolu le problème du hooliganisme.
C'était véritablement de la culture populaire.
Bien sûr, et là, on a une appropriation. Et en France, c'est venu avec Canal+, etc., où c'est devenu hype. Parce que je me rappelle, avant Canal+, il n'y avait rien de plus ringard que de regarder un match de foot.
On peut même dire avant la Coupe du Monde de football de 98.
Oui, c'est ça. Et là, ça s'est transformé assez rapidement. Et ce qu'on observe, c'est cette appropriation, elle se fait là encore sans aucun problème. Donc les stades de foot se transformant en salon de thé, on peut dire ça, où la jet set vient se rencontrer et sa belle champagne avec un Mbappé milliardaire qui vient serrer les mains. Donc ce qu'on voit à travers le foot notamment, c'est une éviction en douceur. Et en Angleterre, ça s'est passé très, très simplement. C'est-à-dire que les catégories populaires ne supportent plus les grands clubs, mais la deuxième division ou troisième division locale. Et cette appropriation culturelle, elle continue. Elle se poursuit avec la gentrification. Et aujourd'hui, on a typiquement la petite maison de pêcheur qui n'est évidemment pas détruite, qui est gardée dans son jus, avec souvent la bouée qui est sur la devanture, où vous avez un cadre supérieur d'une grande multinationale qui est devenue le propriétaire des lieux.
Donc on chasse les classes populaires de la grande ville, on la chasse des bords de mer, on la chasse des stades de foot, on va le voir, on la chasse aussi du cinéma, de la littérature. On fait une pause, Christophe Guilluy, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le géographe Christophe Guilluy qui publie Les Dépossédés. Dans Les Dépossédés, vous nous racontez, et vous faites bien la différence d'ailleurs, on la comprend, entre la France périphérique et les banlieues. Car les banlieues, elles continuent de profiter de la proximité de la grande ville hein, en termes d'emploi. Alors souvent des emplois subalternes, mais aussi de mobilité sociale. Et puis la banlieue, elle est très présente dans la culture, dans le rap évidemment, qui non seulement est écouté par les classes populaires, mais aussi par une partie de la jeunesse issue des quartiers huppés, mais aussi dans le cinéma. On en voit des personnages. Les France périphériques, ça n'a rien à voir. Elle a disparu pour vous, ou en tout cas, elle est cantonnée dans un rôle misérabiliste qui ne fait pas envie.
Oui, alors, il y a deux choses. Déjà, la France périphérique, elle est diverse, j'allais dire, en termes d'origine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde, je n'oppose pas, il n'y a pas de fracture culturelle fondamentale entre les milieux populaires. La question, c'est le flux. Les banlieues, aujourd'hui, sont devenues des SAS. Des SAS qui se concentrent dans les quartiers de logements sociaux des grandes métropoles. Leur fonction, c'est d'occuper effectivement les emplois de la bourgeoisie des grandes métropoles. Il s'agit de ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, être localisé finalement dans les grandes métropoles offre quand même une possibilité aux gens qui habitent dans cette banlieue, c'est l'accès à l'emploi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la banlieue, contrairement à ce qu'on dit, produit de la classe moyenne depuis 20 ans. Sauf qu'évidemment, les gens, quand ça va bien, ils quittent ces quartiers. Et donc, on a bien comme ça une image de quartiers figés qui ne le sont absolument pas. Je rappelle toujours que si réellement on avait des populations figées sur place, elles vieilliraient. On vieillit à la même vitesse, quelle que soit son origine. C'est une information que je donne. Si réellement rien ne bougeait en banlieue, on aurait des vieillards qui taperaient le carton dans les halls d'immeubles, et non pas des jeunes. Nous n'aurions pas des femmes en âge d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, si il y a autant de jeunes dans ces quartiers, c'est bien qu'il y a une fonction la fonction de ces quartiers est une fonction de SAS.
De fournir aussi bien livreurs, des serveurs.
Évidemment, ces catégories servent à, au marché de l'emploi le moins qualifié des grandes métropoles, à finalement servir l'ensemble des catégories supérieures de ces grandes villes. On le voit, bon, évidemment, dans la restauration, le BTP, mais aussi les services à la personne. Et évidemment, il s'agit d'emplois très peu rémunérés, où on va pouvoir exploiter, Fatoumata. Fatoumata, je pose toujours la question d'ailleurs, Fatoumata qui garde les enfants des cadres supérieurs, on ne pose jamais la question que je pose, qui garde les enfants de Fatoumata. Voilà, tout ça s'appelle l'exploitation. Évidemment, quand je dis ça, j'essaie de bousculer la posture de supériorité morale de ces catégories qui vivent dans les grandes métropoles. Mais derrière, évidemment, il y a cette idée que ce monde-là est fondamentalement un monde à l'américaine. Hein, la société française est devenue une société américaine comme les autres. Et la métropole est la pointe avancée de l'américanisation de la société française. Et c'est pour ça que même quand on me parle, par exemple, de la question de l'islamisation, etc., bon, c'est une vraie question, mais n'oublions jamais une chose, l'islam se love dans l'américanisation de la société française. Pourquoi ? Parce que une société néolibérale est une société segmentée, dans laquelle, évidemment, la majorité ordinaire n'existe plus. Et cette majorité ordinaire qu'on retrouve dans la France périphérique, qui, je le rappelle, va jusqu'au dom-tom, n'est pas la France, comme on l'a souvent dit, des petits blancs. Et ça, c'est vraiment un terme que je n'emploie jamais. quand je parle de petits, je parle de petits blancs, je parle de petits noirs, je parle de petits juifs et je parle de petits musulmans. Pourquoi je dis ça? C'est que cette manière... déjà, il faut rappeler une chose, c'est que le terme petit blanc est un terme inventé par l'hyper-bourgeoisie WASP américaine pour signifier la paresse et l'incapacité à s'adapter aux logiques économiques des blancs de la classe ouvrière. Donc c'est un terme très méprisant. Donc c'est évidemment pas un terme que je reprends. Je rappelle que la France périphérique est de fait aussi multiethnique. Hein. Là encore, c'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'il y a là une homogénéité. Et que surtout, ce qui est le plus important pour moi, cette France périphérique, elle se caractérise d'abord par une chose, c'est que dans ces territoires, vous avez une forme de désertification de l'emploi et en tout cas des créations d'emplois qui ne se font plus.
On fait tout de suite une pause, Christophe Guilluy, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Avec Christophe Guilluy qui publie Les Dépossédés, livre dans lequel vous dites que dans le cinéma, mais aussi dans la littérature, dans la culture en général, le récit qu'on fait du monde, c'est celui de la bourgeoisie. Et quand on parle des classes populaires, c'est toujours misérabiliste. Il n'y a pas de panache, pas de fierté comme il pouvait y en avoir autrefois dans les films de Jean Gabin, dont vous parliez tout à l'heure, hein, du jour se lève à Rue des Prairies. La seule fierté, c'est quand on a réussi à s'extraire des classes populaires et à s'intégrer dans la bourgeoisie. Ça, c'est la figure du transfuge ou celle du repenti. Celle-là, elle est partout. Hein. Elle est dans les séries télé, elle est dans la littérature.
Oui, parce que dans un moment où on a besoin toujours de rassurer moralement la bourgeoisie, bien évidemment, c'est très compliqué d'expliquer que le modèle économique qu'elle soutient a mis sur la touche une majorité de la population. Si je dis je mets sur la touche la classe ouvrière ou quelques marges paysannes de la société, c'est pas très très grave. Si je dis votre modèle est en train de fracasser la société elle-même, c'est-à-dire la majorité, là ça pose un véritable problème. D'où l'idée d'évacuer la question sociale et de la traiter par le petit bout de la lorgnette. Donc le petit bout de la lorgnette, c'est typiquement... Alors, quand elles ne sont pas évidemment ostracisées et fascisées, les classes populaires... parfois apparaissent sur les écrans. D'ailleurs, on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, où on a vu d'ailleurs, c'était très amusant de voir la sidération non seulement des politiques, mais aussi des journalistes, devant ces gueux à qui on demandait finalement, mais pratiquement comme une promenade aux eaux, où ils vivaient, ce qu'ils achetaient. On s'était même étonné, je me souviens, qu'ils aient des abonnements Netflix et des écrans 16/9 chez eux. Quoi. C'était alors qu'on imaginait finalement les gueux avec une gamelle et un peu de soupe dedans, éventuellement. Quoi. Mais là, les représentations ne correspondaient pas. Et après les avoir ostracisés, il a fallu trouver un moyen quand même d'aborder la question sociale. Et là, ça a été alors non seulement la segmentation, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de parler d'une France majoritaire. La question de l'évacuation de la majorité est très importante dans le narratif dominant. Il faut toujours qu'il n'y ait que des minorités, ou des segments, ou des panels, comme le diraient
d'ailleurs,
les
publicitaires. D'ailleurs, vous parlez de Netflix, où toutes les minorités ont le droit de citer, sauf les classes populaires, qui ont quasiment disparu à l'échelle mondiale de Netflix.
Les classes populaires pourront émerger si effectivement on a la figure d'un transclasse ou d'un transfuge de classe, c'est-à-dire le type qui a réussi, qui peut venir d'ailleurs de la France périphérique ou de la banlieue, hein, on a typiquement ça, mais qui évidemment va épouser toutes les valeurs du monde d'en haut. C'est ce qu'on va lui demander. Et c'est pour ça que je parle toujours, c'est très drôle parce que bon, je suis un fan de Jack London et Martin Eden n'est absolument pas compris par la bourgeoisie. C'est très drôle, c'est que la bourgeoisie voit ce roman comme finalement la preuve que tout est possible aux États-Unis, que évidemment le self-made man, c'est Jack London qui l'incarnait, la preuve, il a toujours voulu réussir, etc. etc. Alors certes, il a toujours voulu réussir, notamment pour accéder pas seulement à l'argent et à la gloire, mais aussi aux femmes, c'est très clair quand on lit Martin Eden, mais ce qui est vraiment le fond de l'œuvre de Jack London, c'est son désespoir. Face à ce qu'il a côtoyé en haut, au salon. Et à la fin de sa vie, il écrit un texte dans lequel il explique que finalement, il a voulu monter, il a vu, et finalement, il se dit que les valeurs morales des gens qu'il a côtoyés en haut ne valent guère et valent beaucoup moins que celles qu'il partageait en bas. Et en fait, dans Martin Eden, il ne cesse de railler en fait le ridicule de cette bourgeoisie qu'il a voulu intégrer. Et c'est ce qui aussi explique le désespoir de sa fin de vie.
Et est-ce qu'on pouvait voir dans un certain nombre de films de Jean Gabin, par exemple, on cite que lui parce que c'est le symbole, et qu'on ne voit plus aujourd'hui, effectivement.
Bien sûr. Avec, vous voyez, par exemple, dans les années 80 a émergé le concept de mixité sociale. On a parlé de mixité. Donc, années 80, début 80, c'est le virage, on va dire, libéral de la gauche, néolibéral de la gauche, le tournant de ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, etc. Bref, les gens de gauche devenaient des gens de droite, pour aller vite. Donc, on évacue la question sociale. Mais là encore, dans la narration, il faut quand même parler de social, puisque nous sommes en démocratie, nous tendons le micro à tout le monde. Et là est venu le concept de mixité sociale, comme si finalement, dans les quartiers populaires, ce qui était gênant, c'est qu'ils soient populaires. Je rappelle que le Parti communiste, hier, par exemple, dirigeait des communes qui étaient ouvrières, dans lesquelles il n'y avait aucune mixité sociale. Et ça ne posait aucun problème. Les gens ne se posaient pas la question de savoir si son fils ou sa fille devait aller à l'école avec le fils de l'avocat ou du ministre pour réussir. Comme si ils avaient besoin, comme des gens un peu faibles d'esprit, finalement de camarades qui les accompagneraient comme ça vers le sommet. Et ce concept de mixité sociale est très ambigu parce qu'il signifie une chose, c'est que la culture populaire, on doit de toute façon s'en extraire. Et derrière, quand on tire le fil, la mixité sociale, vous avez eu des gens qui ont travaillé beaucoup sur la question de l'ascension sociale. Alors avec la modélisation, comme on fait aujourd'hui, tu étais fils d'ouvrier, es-tu devenu cadre, etc. Enfin, tout est modélisé, etc. etc. Mais jamais on pose on se pose la question de mais est-ce que c'est un problème de vivre dans un milieu populaire ?
Moi, je dis toujours, pas en être fier au fond.
Alors, je dis toujours, on peut non seulement et on faisait comme ça hier, naître en milieu populaire, vivre en milieu populaire, mourir en milieu populaire. Alors là, en général, le type de gauche pleure quand il est en face de moi, c'est pas possible. Et réussir sa vie et être heureux. Et surtout se dire, mais finalement, c'est une chance d'être né dans un milieu populaire. Moi, je suis assez frappé pour travailler beaucoup en banlieue et dans les quartiers sensibles depuis des années et des années, à quel point on a dévalorisé cette idée que, notamment chez les jeunes, mais ça peut être tu as de la chance d'être né dans un milieu populaire. Ce n'est pas un drame. Ce qui est un drame, en revanche, c'est le modèle économique. Et alors ça, évidemment, ça, par contre, on n'en parle jamais. C'est le modèle néolibéral qu'on a mis en place qui fracasse l'ensemble de ces catégories populaires, moyennes, ce que j'appelle les gens ordinaires. Mais les gens ordinaires, on les retrouve tout aussi bien en banlieue que dans la France périphérique. Mais ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez sur les représentations, vous voyez, par exemple, en banlieue, la représentation de la banlieue, ça va être la représentation de Cannes, c'est-à-dire le film Rodéo, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, ou des films qui vont mettre en avant l'hyperviolence, etc. etc. Les gens ordinaires de banlieue ne sont jamais mis en avant. C'est-à-dire que le type qui se lève le matin, qui d'ailleurs est très remonté contre l'insécurité, voire l'immigration, qui est lui-même immigré, ça c'est pareil, ça n'apparaît pas, parce que par définition, les gens en banlieue seraient pour l'insécurité, pour la violence et pour l'immigration. Je veux dire, or, ce qu'on constate évidemment dans les enquêtes, c'est que sur ces sujets-là, l'ensemble des catégories populaires, quelles que soient leurs origines, voire d'ailleurs ce qui se passe dans les dom-toms, hein, le rapport à l'immigration en Guadeloupe, c'est très intéressant. Évidemment, il y a un commun. Et le commun, c'est qu'effectivement, les gens sont aujourd'hui convaincus de leur diagnostic. Un diagnostic très ferme sur un modèle économique, sociétal et culturel qui ne leur fait pas leur place.
Les Dépossédés, ça vient de paraître chez Flammarion, c'est signé Christophe Guiluy. Merci Christophe Guiluy d'être venu dans cette émission pour en parler. On se retrouve dans un instant avec Jacques Tardy.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1. 9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et j'ai maintenant la joie de recevoir l'un des plus grands auteurs de bande dessinée vivant, Jacques Tardy. Bonjour.
Bonjour.
Grand prix du Festival d'Angoulême en 85, lauréat de deux prix Eisner, le prix le plus prestigieux aux États-Unis pour deux de vos albums sur la guerre de 14. Vous venez de sortir chez Casterman Le bébé des buts de Chaumont, le dixième et dernier album des aventures d'Adèle Blanc-Sec, une série traduite en 18 langues, vendue à 2 millions d'exemplaires, que vous avez débuté, vous aviez 29 ans, en 1976. Avec Adèle et Labecte, à une époque où les héroïnes de bande dessinée étaient encore rares. Hein.
Si, il y avait Barbarella, il y avait Zodel.
C'était que des filles très très sexy,
oui.
et pas lues par les enfants.
Oui, mais nous étions au lendemain de l'année de la femme.
Ah, c'est sûr.
Et donc,
1975.
Et en plus de ça, c'était pas dans mes intentions de faire ce genre de bande dessinée avec des nanas... à poil, du début à la fin. C'était pas du tout ce que je voulais. Et en plus de ça, l'éditeur Casterman n'aurait pas...
Non, ils n'ont jamais voulu. mais moi, je vous suivais déjà à l'époque. Et je pensais que vous ne vous laisseriez pas enfermer, comme beaucoup de vos collègues, dans une série avec un héros récurrent. Or, ça a été le cas. Adèle Blanc-Sec, ça a duré jusqu'à aujourd'hui, plus d'un demi-siècle.
Il y a eu les deux premiers albums qui ont été faits, l'un à la suite de l'autre. Après... ça s'est quand même un petit peu dilué, le rythme a été moins tenu. Là, j'ai toujours dit que j'en ferais 10 et pas un de plus.
Oui, on sentait que ce n'était pas votre truc. Hein.
Non, pas vraiment. Et quand j'ai terminé le 9e, je me suis dit, bon allez, j'embraye, je continue sur le 10e, ça sera fait. J'en ai dessiné 14 planches, très exactement, il y a 14 ans. Et j'ai laissé ça de côté parce que vraiment, ça m'agaçait. J'en avais trop, déjà trop fait. J'ai laissé ça de côté pendant 14 ans.
Vous aviez plein d'autres choses à dessiner, il faut dire. Hein, des romans graphiques, l'histoire de votre père prisonnier dans un stalag pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'autobiographie très politique de votre femme, la chanteuse Dominique Grange. Mais est-ce que vous pensiez tout de même à Adèle Blanc-Sec pendant toutes ces années?
Le dixième et dernier, il fallait que je le fasse. C'est ce que j'avais dit. Et il y a donc un an ou deux à peu près, je retombe sur ces planches, je me dis bon allez, je vais terminer. Seulement, j'avais laissé mes personnages avec au moment où il y a une épidémie,
oui.
N'est-ce pas ? Tout le monde est transformé en vache, etc. Et en plus de ça, il y avait un certain nombre de clones d'Adèle, des clones explosifs destinés à la détruire. Donc,
des terroristes donc ?
Non, c'était pour détruire Adèle, mais bon, je tombais dans ce problème-là, je ne pouvais pas faire de l'humour avec ce qui s'était passé, ce n'était pas possible. Donc il a fallu que je mette à la poubelle le synopsis que j'avais fait et que je reparte sur des bases différentes pour terminer. L'idée étant de faire ce dixième album et qu'on n'en parle plus.
Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce que vous êtes tombé amoureux d'Adèle Blanc-Sec ?
Non, pas du tout.
Jamais. On ne tombe pas amoureux de son héroïne, celle qu'on a créée de toutes pièces.
Non. Il faut éprouver un certain plaisir à la dessiner, bien sûr. Mais elle a beaucoup changé. Oh, si vous regardez les premières
représentations... Elle est passée de 23 ans à 35
ouais,
ans.
Mais elle ne ressemble pas à ses premières représentations. Donc elle a évolué. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est que pour pouvoir faire vivre un personnage comme ça, il a fallu que je lui trouve une activité. Il était hors de question qu'elle soit espionne ou je ne sais quoi. Elle fait le même métier que moi. Elle écrit des romans feuilletons. Elle a des problèmes avec son éditeur. Elle n'est pas contente des couvertures, des fascicules que lui fait l'illustrateur, qui deviendra son beau-frère par la suite. On apprendra qu'elle a une sœur qu'elle déteste, etc. Et ça, c'est le problème du roman feuilleton, du feuilleton tout court. C'est-à-dire qu'au début, vous ne savez pas. Ces éléments-là, vous ne les avez pas mis en place en disant, bon, il y a ça, elle a un beau-frère, elle a une sœur et tout. Au début, vous ignorez tout du personnage. En dehors des deux premiers albums qui ont été... il y avait un synopsis précis, parce que ça, c'était une exigence aussi de Casterman, qui avait un petit peu peur que je parte à l'aventure et que je fasse n'importe quoi.
Vous faisiez un peu peur, vous, Jacques Tardy, en tant que... vous étiez atypique en tant qu'auteur de bande dessinée à l'époque. Hein.
Donc, on m'avait demandé de fournir un synopsis précis que j'ai fait. Les deux premiers albums ont même été entièrement dessinés et même mis en couleur avant exécution. Et ça, c'est épouvantable, parce qu'après, effectivement, vous faites de l'exécution. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc, dès le troisième album, c'est parti à l'aventure.
Mais c'est fou comme le dernier album donc, qui vient de paraître, Le bébé du début de Chaumont, est beaucoup plus bavard que le premier. Les bulles de dialogue ont envahi une bonne partie du cadre, au détriment des décors, et surtout le silence dont vous êtes, à mes yeux, un des spécialistes en bande dessinée. Hein. Le silence a quasiment disparu. Comment est-ce que vous expliquez ce tintamarre ?
Mais j'avais beaucoup de choses à expliquer, à liquider. Il y a un certain nombre de personnages d'ailleurs qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout. Manque de temps, vous remarquerez aussi que ce dernier album est un petit peu plus épais que les autres.
Il fait plus de pages, oui.
Oui, pour faire rentrer tout ça.
Plus de cases, plus de pages.
Ouais, il faut pour expliquer, à partir du moment où on a recours au texte aussi, ça prend de la place. C'est tout.
En fait, c'est comme les séries à la télévision, de plus en plus nombreuses. Quand on dit aux auteurs, bon, il n'y aura pas de saison suivante, on arrête là. Alors, ils essayent de caser toutes les explications dans les trois derniers épisodes.
Je vous dis, il y a un certain nombre de personnages qui sont restés comme ça. Je les ai pas, j'avais prévu des choses pour eux. Je les ai pas racontés, je les ai pas évoqués, faute de. Ou alors, il aurait fallu rajouter un autre album. Et ça, il en était hors de question. Après, dans la bande dessinée, c'est toujours du feuilleton, mais ça fonctionnait à condition que les publications soient hebdomadaires. À partir du moment où on est passé au mensuel, ça n'a plus vraiment fonctionné. Et après, la suite a été prise par la télévision. Les séries, c'est rien d'autre que des feuilletons. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des séries interminables. Même si au départ on est intéressé, on ne va pas jusqu'au bout parce que ça devient lassant. Très lassant.
Ça pourrait faire une bonne série télé, Adèle Blanc-Sac. Est-ce que vous aviez aimé le film qu'on avait tiré, Luc Besson ?
Oui, j'avais aimé, oui.
C'est l'air dubitatif.
Je sais qu'il y a un projet de série, Adèle.
Ça ne vous embêterait pas ?
Non, pas du tout. Mais là, quand un réalisateur s'empare d'un personnage, comme ça, il faut pas s'en mêler, il faut regarder ça de loin et laisser faire.
Vous écrivez à la dernière page du Bébé début de Chaumont, « Ainsi s'achèvent pour toujours les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, gare aux faussaires qui serait tenté d'y donner suite. Vous n'aimez pas ce qu'on a fait d'Astérix ou de Corto Maltese ou de Black et Mortimer avec d'autres auteurs, d'autres dessinateurs qui ont remplacé les dessinateurs originaux
Pas trop, non. J'aime pas trop, non.
Mais vous savez aussi que ça ne dépendra pas de vous, mais de vos héritiers. Vous pourrez toujours lancer des malédictions depuis votre tombe, comme Toutankhamon.
Bien sûr, mais je ne me fais pas d'illusions. Mais je ne trouve pas ça très, très intéressant. C'est dommage, parce qu'il y a des dessinateurs de talent. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne s'expriment pas ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur propre série ? Je parle surtout des reprises de Blake et Mortimer. Parce que c'est...
Vous avez la religion d'Edgar P. Jacobs, l'auteur original de Blake et Mortimer.
Oui. C'est lui et personne d'autre. Il ne voulait pas qu'on continue qu'on reprenne ses personnages et qu'on continue cette série. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais mon avertissement a quand même un côté un petit peu ironique.
Oui, mais comme c'est la fin d'Adèle Blanc-Sec où il y a des histoires de malédiction, de momies, d'hommes préhistoriques qui reviennent à la vie, c'est aussi une façon de dire de là où je suis, de là où je serai plus exactement, je pourrais toujours me venger.
La vengeance, s'il doit y en avoir une, elle sera, à mon avis, orchestrée, organisée par les tardigrades. Les tardigrades, c'est ces petits bestiaux minuscules, microscopiques, qui certains ont vécu à l'époque de Toutankhamon, etc., et qui vont vraisemblablement envahir le monde. Voilà la fin véritable des aventures d'Adèle Blanc-Sec.
Merci Jacques Tardy, merci d'être venu dans cette émission. Le bébé début de Chaumont, le 10e et dernier album des aventures d'Adèle Blanc-Sec, c'est paru chez Casterman.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. Très bon dimanche sur Europe 1. Dans un instant, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, exceptionnellement animé par Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri, qui est votre invité ?
Bonjour Frédéric, je reçois ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, pour l'interroger avec moi Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté. Alors les sujets évidemment ne manquent pas, le meurtre de Lola et ses prolongements politiques, la crise des carburants, les deux motions de censure qui attendent le gouvernement demain lundi à l'Assemblée nationale. On parlera aussi de pouvoir d'achat et de Jean Castex et Édouard Philippe. L'un est entravé dans ses nouvelles fonctions à la RATP, l'autre est rattrapé par la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise du Covid. Bref, beaucoup de sujets sur la table. Rendez-vous dans une poignée de minutes sur Europe 1 et CNews.
Merci Dimitri, bonne émission.
Europe 1.